Voilà, donc merci de m'avoir invitée. Des œuvres enquêtes. Je vais présenter rapidement donc trois œuvres d'art contemporaines qui font appel à des procédures proches de celles de l'enquête pour essayer de cerner des relations complexes entre les habitants et leur lieu de vie, leur environnement immédiat. Donc, ce que ces œuvres ont en commun, c'est le recours à l'enquête. C'est également le fait de procéder sous la forme de dispositifs qui juxtaposent des photographies et des paroles rapportées d'une façon ou d'une autre. Et donc, par-delà ces dispositifs, mais j'essaierai de renouer ça en fin de parcours, c'est, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui se passe dans le champ de l'art contemporain et d'œuvres qui sont placées sous l'égide du documentaire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à travers ce retour d'un intérêt pour le réel et de ce recours à des procédures qui sont proches de procédures utilisées dans le champ des sciences humaines, avec évidemment des variations, des modulations, des mises en perspective. Donc c'est là-dessus que porte mon questionnement. Donc la première de ces œuvres, c'est une œuvre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Souvenirs de Berlin-Est », qui est une œuvre de Sophie Kahl, donc réalisée en 1999. Elle a été présentée sous forme de dispositif, donc soit au sein d'un livre d'artiste, soit au sein d'une installation. La démarche de Kahl, c'est donc de se rendre à Berlin-Est et de sculpter le sort qui a été réservé à des monuments, à des symboles qui étaient reliés au pouvoir soviétique et qui ont été effacés ou occultés à la suite de la réunification. Donc elle procède toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'elle va faire un certain nombre de séquences, et dans chacune d'entre elles, elle juxtapose donc une photographie du site tel qu'il est là aujourd'hui, avec le signe, le symbole du pouvoir soviétique qui a été occulté. On le voit ici sur la photographie qui est donc à gauche. Figure également une photographie qui montre le symbole tel qu'il était là autrefois, en noir et blanc. Ce sont des images d'archives. La première photographie en couleur n'est pas non plus faite par Sophie Kahl. Il s'agit d'un enregistrement qui n'a pas vraiment d'ambition esthétique. Et à côté de ça sont juxtaposés des fragments de témoignages d'habitants montés. Donc elle a trié parmi des interviews qu'elle avait fait, et donc à chaque fois sont proposées cette mise en relation donc de deux photographies et de paroles d'habitants. Donc je vais très vite. Ce qui ressort à chaque fois, c'est la diversité des réactions des riverains, des proches. Avec le fait que certains sont satisfaits, dont d'autres expriment au contraire du désagrément de voir ces symboles occultés. Ce qui ressort un petit peu tout le temps, c'est le fait qu'il y a un sentiment de manque très fort qui s'exprime. On le voit au bas de la page 14. Il ne me manque pas, mais j'aimerais mieux qu'il soit là. Encore maintenant, quand je passe devant cette façade, je le cherche du regard. Ailleurs, on va face à une autre image que je n'ai pas reproduite. Notre logement le surplombait, il s'agit d'une gigantesque statue de Lénine, au 11e étage. Ainsi, le plus souvent, je le voyais de dos. À chaque fois que je le regardais du haut de mon balcon, il me bouchait la vue, mais j'étais habituée à lui et nous étions bien obligés de cohabiter, si je puis dire. Ailleurs, à chaque fois qu'il m'arrive de passer par là, je suis consciente de ce vide. J'étais encore petit lorsqu'on l'a construit. Je le voyais depuis le 21e étage. Quand on le voyait dans la rue, on disait « on va voir Lénine ». Vu de chez nous, il avait l'air plus humain, moins sévère. Lorsqu'on était en bas, à ses pieds, on se sentait écrasé. Ou encore, je juxtapose quelques fragments. Toutes ces situations, c'est comme si on nous réaménageait notre maison. Donc, ces éléments sont juxtaposés au sein de séquences, sans lien, sans mise en congruence, et finalement, c'est donné comme une forme de dispositif qui laisse aux visiteurs visiteur, si c'est dans l'exposition, lecteur, si c'est dans le livre, a la possibilité de projeter des liens et finalement de supputer des relations dans l'intervalle qui se tisse entre les mots et les images. Ces propos exemplifient en tout cas combien à ces symboles s'accrochent des éléments vécus, s'accrochent des émotions, s'accrochent des souvenirs constitutifs de la personnalité des personnes. Autre exemple, donc il s'agit d'une œuvre qui s'appelle Le Grand Ensemble, qui a été réalisée par Mathieu Pernaud, montrée en 2007 dans une exposition de Pernaud, une rétrospective de Pernaud dans la galerie du Jeu de Paume. Et puis ça a fait l'objet d'un livre concomitant. Et là, on a encore une juxtaposition de différents témoignages, de différents enregistrements. Pernaud a commencé par photographier ces grands ensembles au moment de leur implosion. Ceux-ci sont présentés sous la forme de grands tirages en noir et blanc qui montrent dans un nuage ces bâtiments en train de s'affaisser sur eux-mêmes dans une vision un petit peu apocalyptique. Et puis, après ce premier travail, c'est assez grandiose, ce sont de très grands formats, il a cherché des cartes postales de ces mêmes grands ensembles, cartes postales faites pendant la période des Trente Glorieuses, donc de ce type, qui sont en bien plus petit format, et qui montrent les lieux sous un jour complètement différent, avec des couleurs assez saturées. C'est pris en surplomb, donc on a une vision d'ensemble. Et on voit ces espaces, en fait, tels qu'ils sont destinés à être investis par la vie, avec des espaces destinés à la circulation, des pelouses, des arbres, des trottoirs, enfin des lieux capables d'accueillir la vie. Et puis, il va, au sein de ces cartes postales, aller chercher des détails, des personnes qui y étaient, mais qu'on ne décelait pas quand on voyait les cartes dans leur ensemble. Il s'agit d'agrandissements, on le voit bien parce qu'on a les points de la similigravure, qui montrent des passants en mouvement dans ces espaces. Donc déjà s'établit un dialogue entre les cartes et puis ces personnes qu'on ne décelait pas au premier abord, mais qui relient les infrastructures à des vies. À cela, il combine des fragments de correspondance qui sont placés au verso de ces cartes. Je vous les laisse lire. Ce sont des bouts de correspondance qui relatent des événements relativement banals, détails sur la santé des habitants, sur les anniversaires, les mariages, les maladies des enfants, différentes choses, et qui généralement sont fortement corrélés aux lieux qui sont représentés, donc au recto. Sur la carte, mon bâtiment est en photo à gauche en bas. En dessous de la flèche, tu vois la fenêtre de ma chambre et à côté, la porte-fenêtre de mon salon. Je t'envoie une vue du quartier où je travaille. La croix montre l'agence. J'habite dans un de ces bâtiments à 5 minutes du boulot. Ressort dans ces fragments de correspondance une forme de plaisir à habiter là. Et à accéder à une certaine forme, à un espace d'abord, important pour les gens qui aménagent dans ces appartements, et puis satisfait de bénéficier d'une certaine salubrité. Donc, ce qui se joue pour les spectateurs se fait dans l'intervalle, dans la mise en relation de ces différents fragments, qui sont fournis un petit peu comme une partition qui est laissée libre à l'interprétation des visiteurs. Le visiteur étant dans une perception relativement active du dispositif et projetant lui-même sans doute des expériences spatiales au travers des éléments qui lui sont proposés. Dernier exemple, il s'agit d'une œuvre qui s'appelle « Au fenassier », qui a été faite par Hortense Soichet en 2012. Donc Hortense Soichet est une jeune photographe qui, de manière récurrente, interroge les modes d'habitation et d'investissement de l'espace dans une perspective qui confine généralement à l'anthropologie. Et elle procède toujours en combinant donc des prises de vue de ce type à des interviews des habitants. Elle passe du temps avec eux, elle prend le temps de les connaître et elle réalise des entretiens où elle va sélectionner des éléments qui lui paraissent paradigmatiques. Donc, Offenacier a été réalisé à Colomiers, en Haute-Garonne, dans une cité. Et donc, elle présente ça dans un objet qui est hybride, une sorte de livre d'artiste, qui n'est pas relié. Les pages peuvent être librement disposées et réagencées par celui qui acquiert le livre. Elles sont simplement reliées par un caoutchouc rouge, de sorte que l'on peut les battre, les intervertir. Et elles vont montrer donc, soit des photographies de l'extérieur de ces appartements. C'est toujours du format carré, très sobre. Soit des intérieurs même de ces appartements, avec des dispositions qui en disent long sur les modes de vie, sur la manière dont ces espaces sont investis. Et puis, des fragments des entretiens qu'elle a réalisés avec les habitants. Donc, ce qui ressort de ces fragments verbaux, c'est la manière dont ces lieux sont immédiatement reliés à des trajets de vie, corrélés à des itinéraires. Alors, les habitants, parfois, sont de la région, d'autres fois, sont issus de l'immigration. Et ils relatent ce qui les a amenés à habiter ici. Et les appartements ressortent généralement comme des formes de refuge où ils sont venus échouer. Ils sont toujours posés comme les résultats d'une trajectoire. Donc on a cette alternance de photographie et de texte en interaction. Donc ce qui ressort, c'est la relation existentielle et forte des personnes à cet espace qui relève de l'intime. Et où on sent bien qu'il s'agit pour eux d'une sorte de base, de bulle personnelle, hein, où ils ont structuré les choses, des objets autour d'eux-mêmes et un espace qui leur permet de se tenir à la verticale, hein, et de poser des éléments qui stabilisent un quotidien. Donc le travail rigoureux et sobre, hein, d'Hortense Soichet s'établit sur l'écart, finalement, qu'il y a entre les photographies et les entretiens. Et il me semble que là, on a une recherche de ce qui peut se nouer entre les deux médiums, au sens où, évidemment, les images... on arrive à traduire quelque chose que les images ne sauraient pas rendre sans les mots et que les mots ne pourraient pas rendre sans cet appoint visible. Alors, la question que je me pose aujourd'hui, finalement, c'est l'enjeu de ce type de réalisation contemporaine, qui sont issues d'artistes qui se revendiquent en tant que photographes et qui... finalement s'écarte d'une certaine photographie documentaire. Dans les années 80, s'est répandue une photographie documentaire, généralement jouant sur le grand format, et faisant appel à des critères de la neutralité, de l'objectivité, hein, et qui, ça va très bien, et qui prétendait donner à voir, hein, une organisation des choses, qui prétendait représenter Et il me semble que là, on a des démarches qui sont tout autres, c'est-à-dire que finalement, il ne s'agit pas de représenter des modes de vie, mais bien plus de mener une enquête, hein, au sens où les protocoles mis en place, qui, je n'ai pas eu le temps de développer, mais ce sont des protocoles généralement très rigoureux et très concertés, aboutissent à produire une réalité bien plus que de représenter. C'est-à-dire que le réel que l'on tente de cerner n'est pas donné en amont, mais bien en aval du processus de création, et c'est cela qui m'intéresse. Donc on a des protocoles, on a des dispositifs qui apparaissent comme les modalités d'une enquête. D'autant qu'on est dans quelque chose de type un peu stéréophonique, puisque de part et d'autre, on a des enregistrements. La photographie est enregistrement, les paroles partent d'enregistrements effectués auprès des habitants. Donc on est dans le patchwork stéréophonique de fragments de réalité mis en relation. Et donc, qu'est-ce qui se dit finalement au sein de ces œuvres ? Il me semble qu'elles amorcent une réflexion de type épistémologique, puisqu'elles ne partent pas, ce n'est pas des œuvres qui sont des œuvres d'urbanistes ni de géographes, hein, ce sont des œuvres de gens qui se revendiquent en tant qu'artistes. Et donc, je crois qu'elles peuvent amener à certains types de réflexions de type méthodologique, épistémologique. Alors d'une part, elles réfutent un certain nombre de dualités, il me semble. On en a déjà parlé, mais dualité finalement entre l'espace, hein, et l'observateur de cet espace, puisque on en parlait, je crois que je ne sais plus qui disait, mais enfin, on est dans un espace qui est fortement relié, hein, au phénomène de l'habitation, c'est-à-dire que l'espace apparaît comme un lieu, un milieu où se construit l'être, hein, et vice versa. Donc on a une rupture avec cette dualité qui en tout cas régit le genre du paysage depuis son avènement au XVIIe siècle, hein, au début de l'ère de la modernité, où s'est constitué des normes de la représentation spatiale. Donc cela se trouve battu en brèche. Rupture aussi avec une autre dualité qui est celle de la dualité entre le chercheur finalement et puis le réel qu'il questionne. Puisque là, la parole est donnée aux habitants. Et ce n'est pas seulement ça, finalement. La personne qui agence ces dispositifs, c'est un artiste. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui parle du lieu, d'une expertise. C'est quelqu'un qui est finalement un amateur en matière d'aménagement du territoire. Donc la parole se trouve déportée vers d'autres types de prises de parole. Et on est dans une... Il y a eu des réflexions aujourd'hui sur le règne des amateurs, la prise de parole des amateurs. En tout cas, ça pose ce type de questions-là. Parce que l'artiste n'est pas un scientifique qui parle d'une posture de savoir et de surplomb, mais aussi parce que finalement, la parole se trouve déléguée aux habitants, mais se trouve déléguée aussi à celui qui visionne ce type de dispositif et qui peu ou prou devant ces dispositifs qui ne sont pas clos, qui sont ouverts, se trouve placé lui-même un peu en posture d'enquêteur. C'est-à-dire que c'est à lui de déduire, c'est à lui d'essayer de projeter des choses là-dedans. Et c'est aussi le prémisse d'une reconduction de ce type de posture vers d'autres lieux où lui-même pourrait se trouver en posture d'enquêteur. Donc là, une seconde dualité qui se trouve battue en brèche. Et une dernière, et je terminerai là-dessus, de dualité qui me semble... minée par ce type de travaux, c'est celle de la disciplinarité, on en parlait, hein, mais évidemment, il est assez, nous ne sommes pas enclavés dans une discipline. Les problématiques, je suis allée très vite, donc c'est difficile de voir ça dans le détail, mais les problématiques qui sont soulevées relèvent de la géographie, relèvent de l'architecture, relèvent de l'urbanisme, relèvent de l'histoire, relèvent de l'anthropologie. Et on est donc devant des œuvres qui amènent à essayer de penser, sans forcément y parvenir, puisque on le disait, pour moi, le réel se caractérise par son inaccessibilité, mais il s'agit d'aller vers Hein, quelque chose qui arriverait à prendre les phénomènes dans leur complexité. Et là, je me situe plutôt dans la manière dont Edgar Morin emploie le terme de complexité. Hein, il y a une recherche de saisie du phénomène dans sa complexité. Non pas d'y parvenir, hein, puisque cela me paraît impossible, mais de poser un cheminement possible, un cheminement vers une forme de savoir. Et c'est dans cette réflexion-là même sur ce cheminement que se situe, à mon avis, l'enjeu épistémologique de ces travaux. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci.